Un bon boulot, témoignages et discussions sur les grandeurs et les misères du travail. Selon Christophe Dejour, médecin, le travail est une promesse d'accomplissement de soi, souvent non tenue. Comment faire de son travail à la fois un plaisir, une source de reconnaissance et une source de revenus? Salariés, entrepreneurs, artistes, les parcours sont multiples et les trajectoires singulières, hybrides, mais toujours riches d'enseignements. Nous parlons métier, épanouissement au travail, nous cherchons aussi à comprendre comment un bon boulot pourrait devenir un sale boulot. Hugues Germain travaille les sons. Guidés par leur matière, leur texture, ce qu'ils racontent, ils les prélèvent, les transforment et les inventent pour en faire des installations sonores, des spectacles et même des dispositifs pédagogiques pour apprendre aux enfants à créer. Dans cette première émission, il retrace son parcours et dans le prochain numéro de Un bon boulot, il nous fera découvrir les détails de son métier et ses créations. Hugues nous accueille dans son atelier.
Ça, c'est des oiseaux de l'île Tchegera, c'est sur le lac Kivu, dans l'est du Congo. Là, c'est elle que j'ai fait l'enregistrement. Mais j'aime bien essayer de les rendre expressifs d'une autre manière, en ralentissant, par exemple. Alors là, tout d'un coup, l'oiseau devient autre chose. Ça craque un peu. L'espace change, ça s'est agrandi. Et puis, j'essaye que ça serve à générer d'autres sons. Là, je vais mettre un son qui est généré. Il essaye de reconnaître le son des oiseaux et de le copier. Alors. On bascule dans autre chose, un son de nature électronique, là on l'écoute seul, mais c'est généré par le paysage sonore, c'est pas moi qui essaye de l'inventer. Comme ça, je trouve qu'il conserve un côté oiseau tout de même, ou en tout cas paysage des oiseaux, et qu'il est fidèle à cette île.
Oui, là, on rentre directement dans la matière. Ouais. Peut-être un mot sur le contexte. On était
sur l'île Tchegera, qui est une toute petite île en haut de volcan qui affleure dans un lac, le lac Kivu, à l'est du Congo. Dans un coin près de Goma, c'est tout ce qui reste en fait du grand parc national, le seul endroit qui reste accessible parce que autour de Goma c'est la guerre.
Oui, d'un côté il y a les volcans, de l'autre côté il y a la guerre.
Ouais.
Et dans le lac il y a un risque d'explosion que j'ai vu. Ouais.
Oui, c'est ça.
Pour des raisons géologiques. Donc là on est vraiment dans la matière et. Peut-être un mot, déjà à partir de là, si tu te présentes, tu as le droit à 5 mots, c'est quoi ton métier, Hugues ?
Alors, c'est le son, des sons que j'enregistre moi-même, ça c'est fondateur chez moi,
une curiosité, parce que c'est ça qui permet de trouver des chemins qui n'appartiennent qu'à soi, une technicité, c'est important aussi pour moi, et l'échange avec les gens. Au travers des sons, quoi, pas forcément la parole.
On va revenir et on va développer tout ça le long de deux émissions. Dans un premier temps, ce qui est intéressant, c'est de voir toute la genèse, c'est-à-dire d'où ça part, comment tout ça se met en place, comment un tel métier qui a été qualifié par le Télégramme de paysagiste sonore, qui est qualifié par la coopérative dans laquelle tu travailles de plasticien sonore. Et sur ton site, c'est créateur sonore. Voilà, on va se balader là-dedans. Qui, en plus, c'est quelque chose de. Enfin, moi, c'est le premier plasticien sonore que je rencontre. Et j'en suis très content d'ailleurs. Et voilà, on va commencer par. Avant même la genèse, on va commencer par visiter ton atelier. Donc, je te laisse. Donc, on est dans un garage aménagé d'une façon particulière.
C'est deux garages collés, donc ça fait une trentaine de mètres carrés, en carré, un peu. Il y avait les deux portes ici, il y a une fenêtre tout allongée, j'ai fermé les deux entrées de garage, et j'ai laissé juste une fenêtre en hauteur qui est plein sud, donc il y a une belle lumière, mais malgré tout, depuis l'extérieur, si on veut regarder, il faut vraiment se mettre sur la pointe des pieds et regarder. Les studios, ateliers comme ça, où on fait du son, sont souvent des endroits un peu à l'écart, un peu cachés. Ouais. Tout l'arrière est enterré, puisque c'est à flanc de colline, on va dire. Donc oui, c'est un endroit assez doux que j'ai fait à mon image. Il y a un traitement acoustique sur les murs. C'est de la fibre de coco. C'est pour pas que ça résonne, que le son soit un peu plus diffus. C'est hyper bien, ça sert dans le paysage pour planter des plantes. J'ai mis aussi ce que je savais je me suis arrangé pour qu'il n'y ait pas de mur parallèle, parce que ça évite les échos stationnaires.
Ils sont pas parallèles les murs ici ?
Ouais, non, le mur en bois de ce côté-là, là, c'est une paroi qui est décalée, qui est 10 cm plus loin d'un côté que de l'autre.
Et ça joue sur le son, hein ?
Oui, ça évite qu'il y ait un écho entre les deux murs qui soit régulier. Au lieu qu'ils restent au même endroit, comme c'est en pente, c'est incliné, il va se décaler, il va pas rebondir au même endroit.
D'accord, oui. Peut-être qu'on peut en faire le tour.
Allons-y. Il y a à peu près tout ce qui me passionne.
Allons dans le sens, je sais pas, des sens contraires au sens horaire, par exemple.
Ouais. Alors ici, on arrive du côté de. Alors, c'est cette grosse tôle suspendue.
Donc c'est une tôle, mais elle est découpée, elle est très jolie, hein.
Ouais.
Elle est forgée. Hein.
C'est une partie d'un spectacle qui s'appelle « À l'attention des poissons ».
Voilà, on va en parler tout à l'heure, on va le présenter parce que c'est le jour en ce moment en plus.
Puis c'est 2 ans, c'est quelques années de travail. Donc ils sont là avec moi, ces outils-là. Il y a ici là-haut, j'ai une toute petite guitare électrique que j'ai trouvée à la déchetterie. J'ai plusieurs guitares parce que je joue de la guitare en cachette.
Pas en public, tu veux dire ?
Pas en public, mais en même temps c'est quelque chose qui est important pour moi parce que ça m'a aidé à me forger. Une oreille harmonique qui soit un peu. On entend les hauteurs, quoi, et j'ai besoin de connaître les hauteurs sur lesquelles je travaille. Ah, ça joue tout seul.
La machine joue tout seul.
Parce que la tôle est suspendue et tourne sur elle-même. Des instruments, africains, un djeli ngoni. Plein de. des objets que j'aime bien. J'aime bien les beaux objets. Beaux dans le sens plutôt matière bois. Les pieds d'enceinte, par exemple, c'est moi qui les ai fabriqués. C'est des trois bambous de section de 8 cm. Trois parce que c'est toujours stable, trois pieds. Et ils sont remplis de sable du Cap Cause.
Ah d'accord, ça les rend plus lourds et plus solides.
Ouais, ouais. Il faut vraiment que ça puisse pas bouger, parce que sinon l'énergie qui part à faire bouger l'enceinte, c'est de l'énergie qui part pas à faire bouger le haut-parleur. Alors, moi j'ai besoin que ce soit le haut-parleur qui bouge, pas l'enceinte.
D'accord, ok. C'est un point d'appui fort, quoi.
Ouais. Bon, alors ici le coin, les cloches. Alors j'ai une collection de cloches, bon, qui pour beaucoup en caisse, j'en ai peut-être 300. Et ici, il y en a quelques-unes. Ça, c'est plutôt un bol tibétain. Il y a des grelots comme ça qui se portent à la cheville. J'adore ce genre de son parce qu'on n'entend plus une seule cloche, on entend tout un.
Moi, j'entends presque des insectes qui commencent à s'énerver.
Ouais, c'est ça. La plus petite de mes cloches. Elle est vraiment jolie. Et celle-là, alors ça, c'est, chacune a une caractéristique, mais c'est une cloche de chameau qui vient d'Iran. Et ce que j'aime dedans, c'est qu'elle a deux hauteurs, quoi. Ding, do, ding, do, ding, do, ding.
Ah oui, 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 oui. Et je crois avoir entendu des choses comme ça en Suisse, mais je suis pas sûr.
Et ça, c'est parce que la cloche est ovale. Et donc, ça fait deux notes, un peu.
Ah, c'est la même matière, mais c'est l'ovale de la forme qui crée le son, enfin, qui divise le son en deux...
En deux notes. Hauteur. Et puis, celle-ci, là, tiens, je te donne ça, et... Donc ça, c'est une cloche plate birmane. Il y a très peu de cloches plates.
Super. Ouais. Si on la bouge, ça fait courir le son. Ouais. Ouais, on dirait pas une cloche, on l'appellerait pas spontanément une cloche.
Non. Et cet arbre en bronze qui vient du Burkina Faso, c'est un petit baobab. Non, je te le tiens, là.
Ah. Au départ, il est fait pour sonner, non? Pas forcément, non. Toi, quand on a fait un instrument.
Ouais. Ouais.
Ah, ils n'ont pas tous la même hauteur.
Ouais. Le détournement d'objets, enfin, tout d'un coup, un arbre en bronze, bon, c'est joli, voilà. Puis on le retourne et puis paf, il se passe autre chose. Ça devient un autre monde. J'aime bien ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Un vieux miroir aux alouettes.
Aux alouettes. Ça existe, le miroir aux alouettes?
Le vrai miroir aux alouettes, ouais. C'est une boîte en fer avec un ressort en métal dedans. Et dessus, il y a un morceau de bois avec plein de petits bouts de miroir collés. Et en fait, le ressort, on le remontait. On avait un petit déclencheur où on accrochait une ficelle. On posait ça dans le pré. Avec la ficelle, on allait se cacher loin. Et, enfin, je dis « on », c'est fin 19e. Avec la ficelle, ça permettait de, tac, se mettre à faire tourner le morceau de bois avec tous les miroirs, et ça attirait les alouettes, parce que ça brille avec le soleil. D'accord. Et qu'est-ce qu'on pouvait leur tirer dessus.
C'est ça, c'est un appo.
Ouais, c'est ça.
D'accord, donc, dis donc, je savais pas que c'était vrai. Je crois que c'est une expression, je sais pas d'où elle venait, d'accord.
J'adore ce genre d'objet.
Mais c'est pas du son, ça, si?
Ça, c'est pas du son.
Ouais.
Mais
bon, il y a un dispositif mécanique.
J'adore les choses qui sont autres que... Enfin, il n'y a pas que le son, quoi, dans la vie, où le son est un moyen d'autre chose. Alors là, on est dans la partie purement vraiment
électronique.
En fait, c'est un espace dans lequel il y a devant une paire d'enceintes et derrière une autre paire d'enceintes. Ça fait un carré, et c'est ce qui me permet je travaille principalement en quadriphonie, donc avec des sons qui peuvent aller de l'arrière vers l'avant, tourner. Et il y a aussi une paire d'enceintes plus loin devant. C'est ce qui permet d'avoir un plan sonore lointain, loin devant.
Il y a 4 plus 2, ouais.
Ouais. Et ce système est formaté, on va dire, pour pouvoir, quand je travaille là-dessus, je sais ce que ça va donner dans une grosse salle jusqu'à 1000 places, je sais à quoi ça va ressembler.
Ton garage de 30 mètres carrés, tu peux simuler le son au quartz, par exemple.
Oui, parce que c'est formaté. Il y a tout un système de réglage et je sais que quand ça sonne comme ça, ça sonnera de cette manière-là là-bas, quoi. Bon, ça, c'est vraiment du métier et du matériel aussi, mais enfin, c'est quand même beaucoup une habitude et un travail de l'oreille, une écoute, une écoute habituée.
Il y a une table de mixage, là il y a un ordinateur.
Plusieurs cartes son reliées, quelques vieux racks analogiques dont je me sers plus beaucoup mais dont je peux pas me séparer, qui me suivent depuis hyper longtemps. Qu'est-ce qu'on peut dire? Encore d'autres cloches là-bas.
Oui, en vert, celle-là.
De vert. Et j'aime bien les choses qui ont des... Là, il y en a une que j'adore avec... qui a deux hauteurs aussi. C'est une cloche en verre, donc transparente. Et le battant, c'est un petit, on dirait un morceau de sucre en pierre. Et dessus, en fait, ce qui sert à tenir la cloche, c'est un petit chien, on dirait un petit roquet.
Ouais, il fait beau sur un globe.
Ouais, debout sur les pattes arrière. En fait, c'est anglais. Et c'est un truc pour appeler le chien pour qu'il vienne prendre un sucre.
Ah, c'est vrai?
C'est vraiment...
Les Anglais, les animaux domestiques.
Ouais. Donc, il y a toute une histoire dans la cloche elle-même qui est intéressante. Des cloches du Japon, voilà. Un vase de ma famille que j'aime beaucoup, qui est de Nancy. C'est l'école de Nancy. C'est du dôme. C'est très fin, très... c'est style majorelle ou les art nouveau, en fait, comme les sorties de métro ou entrées de métro avec les tiges en métal avec les boules en verre accrochées.
Ouais. C'est organique un peu.
Ouais.
Ok.
Il y a plein de petites choses comme ça. C'est tout mon, je sais pas, c'est tout l'univers qu'on a quand on est avec les objets dont on a.
Il y a pas mal de souvenirs aussi. Enfin, tout, quand même beaucoup de choses en rapport au son. Hein.
Oui, ouais, ouais. Oh, oui.
Et c'est aussi des outils de travail. Là, on est rentré plein phare, à toute pompe dans le travail, dans la matière. Maintenant, on va refaire l'histoire, comment ça s'est passé. Peut-être déjà depuis les premiers contacts pour toi avec le son et son enregistrement.
Il y a eu des déclics dont enfin, bien sûr, c'est plus tard que je les ai pris comme tels, mais réel souvenir d'écouter les vinyles des grands frères au casque. Et particulièrement le côté effet sur les voix. Enfin, je vois Roger Daltrey dans les Who qui gueule. Ouais. Et puis une réverb énorme ajoutée. Et moi, au casque, me dire mais comment c'est possible? Enfin, il y a un truc. Il y a un truc d'espace pas naturel, mais j'adore ça. L'album Wish You Were Here de Pink Floyd. Mais là, j'ai 7-8 ans, quoi.
Te parle.
Le son dedans, le son qu'il y a, quoi. Je sens une espèce de différence avec le reste. Il y a quelque chose où on voyage, où on est dans un monde. Ils nous font partager un monde.
Oui, donc, c'est là. Ça, il y a une immersion. Hein.
Ouais.
Particulièrement. Enfin, moi, je connais plus Pink Floyd. Enfin, je vois le disque des Who, là, je le vois aussi, ouais. Effectivement, tout d'un coup, on est dedans, on est presque noyé, ouais.
Ouais, ouais.
Ça se passe tout autour de nous, ouais.
Et puis j'ai eu un petit magnéto cassette, donc ça c'est ouais c'est ça, 7 ans et je me rends compte que à la fois l'objet m'intéressait, il y avait un petit micro, c'était pas forcément pour m'enregistrer, mais ça sonorisait, je pouvais faire sonoriser, je parlais dedans, ça le son sortait, et puis premiers échanges de cassettes avec des copains qui m'enregistraient des disques. Et oui. Là, il y a un truc sur le fait de pouvoir enregistrer, fixer de la musique, la passer à d'autres, qui était important pour moi, je crois.
Et c'était beaucoup moins cher que les disques. T'enregistrais la cassette et valait pas grand-chose.
Ah bah oui, ouais.
Tu pouvais même mettre 220 minutes.
Mais oui.
D'accord, ouais. Et bon, là, on alerte sur le son. Et puis, dans le même temps, tu dessines beaucoup, ouais, c'est ce que tu m'as dit. Ouais.
Oui.
J'en parle parce que bon, ça va jouer quand même. Il n'y a peut-être pas forcément de lien, d'ailleurs, entre le dessin et le son.
Moi, je crois profondément que oui.
Ah, d'accord.
Ouais. Oui, parce que dans le son que je produis, qui est presque de la musique, enfin, où c'est une grande question en tout cas, la représentation graphique est un moyen de noter oui. ces sons-là, par exemple, cette manière de faire les sons. Le dessin, j'aime beaucoup dessiner, c'est une manière d'avoir un rapport à l'extérieur, à autre chose, comme enregistrer et ce qu'on en fait ensuite de l'enregistrement. Il y a une distance, il n'y a pas d'objectivité.
Oui, c'est ça. Bon, on va creuser cette question-là du son abstrait.
Ouais.
Du son qui raconte ou alors qui raconte pas, mais il raconte quand même. Bon, ça, c'est, on pourrait faire un parallèle avec la peinture abstraite aussi. Ouais. Mais le son abstrait, c'est encore plus abstrait que la peinture abstraite, je trouve. Mais en tout cas, ça marche. C'est, ouais. ça, qui est, voilà, ouais. c'est ça qu'on va creuser. Et voilà, pendant ce temps-là, tu es à l'école. Tu vas collège, lycée. Et au lycée, l'école ne t'intéresse pas tant que ça à ce moment-là. Tu fais même 2 secondes. Bon.
Mmh. Mmh.
Et pire que ça, moi je pense aux parents, parce que moi je suis parent, tu arrêtes.
Ouais.
Voilà. Et ça c'est intéressant, c'est parce que ça c'est une bascule. Le lien avec le métier que tu fais n'est pas du tout évident, mais malgré tout c'est une bascule et où il se passe quelque chose. Donc peut-être tu peux raconter arrêter l'école et décider de faire un voyage de presque un an en Afrique. L'Afrique, c'est pas si facile, hein. Il y a la logistique. Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Et t'es jeune en plus, tes parents te laissent partir. Enfin, comment ça marche?
Bon, je pense que j'étais quand même, en gros, profondément inadapté à la. Enfin, si c'est pas à la société, c'est au moins à l'école. Et, enfin, j'avais vraiment des problèmes de cet ordre-là, quoi.
T'es décrocheur, on dit aujourd'hui.
Ouais. C'est pas un choix déterminé de dire non, pas l'école. Je vais plutôt. J'essayais en continu de sauver les meubles ou de poursuivre des rêves ou de c'est pas. Bien sûr, après, on voit ça comme une trajectoire.
Oui, mais ça, c'est important de le dire. On fait toujours des explications rétrospectives. Au moment où tu y es, c'est pas explicatif. Ça s'explique pas vraiment.
Ah, non. J'aurais presque. Enfin, c'est pas que j'aurais préféré qu'il en soit autrement, mais j'aurais bien aimé.
C'est plus simple de continuer l'école.
Continuer l'école.
Moins dangereux aussi.
Créatif comme j'étais, tout le dessin que je faisais, j'aurais très bien pu faire une école de. Enfin, je sais pas, style du Perret ou des écoles de dessin pour être.
On
dans la
préciser,
pub, dans les. Mais je suis très content de ne pas avoir fait ça.
Enfin, on peut le préciser, tu t'es inscrit aux Beaux-Arts, mais tu n'y as pas été.
Voilà.
Bon, ça, c'est. Bon, c'est tu peux te griller définitivement. Bon, ça ne s'est pas arrivé, mais ça aurait pu.
Ouais. Oui, j'ai été admis. J'ai passé le concours, j'ai été admis. Et puis, en fait, je suis parti en Afrique, plutôt.
C'est pour se mettre bien qu'une école, c'est un mauvais départ.
Ben, quand je suis revenu l'année suivante avec le même dossier de dessin, et je n'avais pas le bac, ils m'ont dit vous revenez. Je dis oui, j'ai passé un an en Afrique équatoriale et puis finalement maintenant j'ai envie de faire les Beaux-Arts. Donc ça, il y a un côté où J'ai pas fait exprès, mais on n'est pas, enfin, c'est sûr que je sors pas de terminale, quoi. C'est un autre parcours. Et heureusement que des écoles comme les Beaux-Arts peuvent accueillir des gens décalés, inadaptés à des moments comme ça, quoi.
Ouais, ça se fait de moins en moins, ouais. L'Afrique, peut-être en quelques mots, qu'est-ce que ça a pu donner sur le dessin, le son éventuellement, la décision peut-être d'entrer dans un chemin un peu plus droit, enfin plus exploitable en tout cas.
Alors il y a le truc moral de l'accomplissement personnel, de la capacité à faire un voyage de cet ordre-là, quoi, vraiment un tour dans l'Afrique centrale, avec l'émerveillement et la découverte d'une nature, mais on l'apprend d'un coup, quoi, parce que c'est grandiose, c'est énorme, c'est quelque chose que je connaissais, enfin évidemment pas du tout, mais puis c'est des... Donc là, je crois qu'il y a l'envie de pas transcrire ça.
Alors ça, c'est quelque chose de ramener des choses ou d'en faire quelque chose.
Ouais, se retrouver devant quelque chose dans la grande forêt. J'ai vraiment un souvenir très net de la grande forêt, de dire waouh, mais comment on peut partager ça, partager cet espace. Alors bon, j'avais aucun moyen d'enregistrer ou quoi que ce soit, mais sur place. Mais je pense que j'ai commencé à me poser vraiment des questions sur en lien avec l'espace, en lien avec la représentation, en lien avec le paysage et comment une envie d'être juste par rapport au paysage quand on le transmet à quelqu'un d'autre.
D'accord, mais tu le formalisais comme ça, peut-être pas.
Non.
Ouais.
Non.
Il y a les villages aussi, les villages et les villes. Enfin, c'est ça. Un village africain est plus vivant que Guilherme ou ou
oui.
Plus années. Enfin,
oui.
Ou même Brest.
Ou même Brest. Ouais, il y a l'époque. Donc là, on est dans les années 80, hein, donc on est dans le c'est presque les débuts du postcolonialisme.
C'est assez pacifique, c'est assez apaisé à ce moment-là, peut-être. Je sais pas, il y a tellement de guerres par là aussi.
Ouais, non, mais là relativement, je découvre que être blanc, sans argent, parce qu'on j'étais avec un copain à ce moment-là, tous les deux, on avait vraiment, même vraiment pas un rond, quoi. Donc ça collait pas du tout à l'image. On était complètement à côté. On vivait deux, trois fois rien, mais en vivant avec les Noirs dans le village ou en dehors de la cité, en tout cas. Mais il y avait très très peu de Blancs qui vivent comme ça, quoi. Forcément,
oui,
quoi.
Les Blancs, les 4x4, ou tu vois dans les hôtels. Moi, j'étais en Afrique dans un hôtel, ouais. Ok, bon, on voit, là, on a des images de l'Afrique à ce moment-là et du jeune homme où t'as 18 ans.
Oui.
Voilà, qui découvre tout ça, c'est une chance. Et qui revient à l'école.
Ouais.
S'asseoir sur un banc.
Voilà. Alors, même si c'est les Beaux-Arts, c'est pas que c'est pas passé, c'est que ça a demandé, j'ai redoublé la première année. Principalement parce que j'étais pas adapté, mais comment être adapté je pense qu'ils m'ont fait redoubler quand on veut aller dans un endroit, quoi, il faut connaître un peu le chemin, même si on veut prendre des chemins détournés, il faut connaître le chemin normal, c'est-à-dire il faut être dans un moule, dans une certaine forme de moule, si on veut pouvoir suivre l'enseignement et éventuellement le détourner, le pervertir, tout ce qu'on veut. Mais si on le connaît pas, si on n'est pas un peu dans le moule, on peut pas s'extraire du moule, quoi.
T'es dans rien, ouais, si tu. Ouais, ouais. Mais tu disais, t'as même des problèmes de ponctualité.
Oui. Oui. J'étais méga motivé.
C'est ça. Moi, c'est ça. Et les profs ont une intelligence de le voir.
Oui. Oui. J'avais de bons résultats, mais
t'avais juste à prendre l'empreinte de l'école et te mettre dedans. Ouais.
Il y avait quand même une chose sur laquelle j'avais pas des bons résultats, c'était le côté culture générale, mais au sens de l'école, quoi.
L'histoire de la littérature ou de la philosophie, éventuellement.
Oui, pas de première, pas de terminale, égale pas non plus les d'apprentissage de thèse, antithèse, synthèse, de méthodes, oui, comme ça, de rédaction, des modes de réflexion, d'apprentissage de réflexion.
Et comment tu l'as pris, ça? Tu l'as pris comme il faut y arriver, ou tu l'as pris, ah tiens, c'est intéressant, finalement, d'avoir ces outils-là
Non, j'essayais de m'en sortir comme je pouvais, mais
ah ouais.
J'ai pris conscience que bien après que ça venait de là, mes problèmes de rédaction des dossiers ou des devoirs qu'on demandait, ouais, quand il y avait des choses textuelles, je mettais un temps fou.
Mais bon, ils t'ont donné une chance parce que t'as eu le droit de repiquer et après c'est parti tout droit.
Ouais. Ça dure quand même, du coup, ça fait 6 ans d'école.
c'est énorme. Et les parents, moi je pense toujours aux parents, je suis parent.
Oui.
Donc les parents acceptent aussi. C'est important, ouais, de le dire, parce que là, ton père et ta mère ont eu la générosité, d'une part, de te voir aller sans trop savoir où tu vas,
de
te laisser dériver et de comprendre finalement, qu'il y a une direction qui se met en place.
Ouais. Mais, à la limite, enfin, ils étaient d'accord que je fasse même du dessin, même en sortant de ma seconde, hein. C'est juste que j'en étais totalement incapable, puisque j'étais incapable de suivre un moule, ou enfin, de rentrer dans une case quelconque, donc je pense qu'ils étaient contents que je me dise, bon, ok, là, ça y est, j'ai apaisé quelque chose, je peux prendre un fil, et je pense que avoir un enfant qui retrouve un fil, un chemin, c'est...
Ouais, on respire. Ça aurait pu tourner en dépression, en délinquance, en n'importe quoi.
Ah oui, oui, ouais, ouais.
Et c'est là, sûr. Là, ça a marché. Pourquoi ça a marché? Parce que le dessin t'intéressait aussi, et au Beaux-Arts, on développe ça, forcément.
Ouais. Et puis j'étais venu faire les Beaux-Arts, donc mes parents étaient près de Lyon, là, dans une petite ville, et je suis venu faire les Beaux-Arts à Brest.
Parce que c'est étonnant, pourquoi venir à Brest?
Parce qu'on est venu beaucoup en vacances dans le Finistère quand j'étais petit, j'ai adoré le ciel, la lumière, tout ça, et c'était comme une évidence.
Et pas peur de t'éloigner? Enfin non, bon, t'avais été en Afrique, mais... Parce que là, tu te retrouves seul, loin.
Oui, bon, mon frère était dans le coin aussi. Non, mais oui, je crois, quand on est allé en Afrique comme ça, enfin non, ça m'était égal.
Okay.
À ce moment-là, je levais le pouce pour aller voir mes parents à Lyon, quoi. Tu vois.
Ah, t'allais en stop à Lyon, de Brest?
Rue Poulicalor, là, il y avait plein de gens qui faisaient du stop à cette époque-là.
Poulicalor, on se met là?
Ouais, hop, et puis c'est parti, puis en 12 heures, on y est. C'est l'époque, quoi.
D'accord, ouais. Moi j'ai fait beaucoup de stops aussi, mais enfin, des fois tu me mets 3 jours sur la route.
Ah oui.
Et dormir n'importe où. Mmh. Voilà, là on est dans l'école, ça va durer 6 ans, et c'est là qu'il y a vraiment une transformation qui te permet de développer à la fois ce qui se passe aux Beaux-Arts, le dessin, la peinture, la matière, la plasticité des choses. Et tu vas aussi commencer à te poser la question d'argent, c'est bien, tu vas travailler comme un bon élève, malgré tout, qui va travailler à côté parfois. Et tu vas découvrir le son. Alors, on peut développer ces choses-là. À un moment, tu viens un bon élève, bien noté, qui est tout à fait sa place. Un point. Deuxième point, peut-être le travail d'été. Et troisième point, parce que c'est important le rapport à l'argent quand on l'appréhende pas comme ça du tout au début. Comment ça naît dans la tête de quelqu'un. Et le troisième point, c'est le son. Comment ça va commencer tout ça,
C'est certain que quand on a une âme d'artiste, je sais pas, c'est une grosse chose à définir, mais
quand t'as envie de fabriquer des choses.
Ouais. C'est tellement infini de faire des dessins, de réussir un dessin. Il y a aucun repère pour se dire oui, il est réussi ou non, etc. Ça existe pas vraiment. À côté de ça, gagner de l'argent, savoir qu'on a fait une heure, hop, je suis payé tant, c'est fini. C'est des choses très très carrées, concrètes, qui font un bien fou dans la tête, et qui permettent de dire ok, ça c'est apaisé, là je là-dedans, et c'est pas un flou intégral dans toute ma vie complète. Il y a, des bouts où ça a une réalité concrète de j'ai fait ça, je suis payé tant, donc la valeur elle est fixée.
D'ailleurs, tu as travaillé donc au Super Rue.
Ouais.
Je sais pas, tu mets des fruits dans les cajous, etc. Bon, enfin là, oui, il faut bien faire les choses comme on te le demande, exactement comme on te le demande. Il faut être à l'heure.
Ouais. Ouais. Ouais.
Et tu as fait peintre en lettres aussi. Alors ça, c'est un peu plus artiste, mais faut un résultat malgré tout.
Ouais. Ouais. Oui, oui. Ça, c'était vraiment quelque chose de très que j'ai beaucoup aimé parce que. C'était dehors, on avait des commerçants qui étaient contents alors du résultat, et puis on avait mis au point avec le copain avec qui je faisais ça des techniques pour que ça ait de la gueule et que ça aille assez vite, donc il y avait une idée un peu de rendement.
Ça, c'est bien, ouais, pour quelqu'un qui n'était pas là, le rendement.
Ouais, le rendement, tout à fait, ouais. Ouais, c'est une espèce de fil comme ça qui apparaît, qu'on trouve et qu'on saisit, et puis qui permet de. Ben j'ai fait la vitrine de l'auto-école en échange du coût de mon permis.
C'est cher un permis, hein, c'est bien.
Ouais, oui, allez.
Et là, malgré ton père qui t'aide, t'as payé ton permis toi-même, c'est bien.
Oui, c'est une sorte de. Oui, c'est une manière d'avoir envie que d'aller au-devant de
te prendre en charge.
Ouais.
Et alors là, on est là. Et pour le reste, c'est-à-dire, tu joues aussi de la musique, je crois, non?
Ouais.
Là, t'as joué.
Je jouais de la musique. Je faisais de la guitare, de la basse, des petits groupes de rock, mais jamais rien qui ait eu une existence très.
Tu as été devant le public quand même?
Oui, un peu de rock sur la blanche, mais enfin vraiment de manière minime.
Et ça te parle pas? T'as pas envie?
Si, mais je crois que c'est surtout que j'étais pas fait pour ça, qu'il y a un moment où je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour être guitariste dans l'âme profondément, quoi.
D'accord.
C'était pas un truc évident, que j'ai dû travailler beaucoup pour y arriver et que c'était pas un truc naturel. Je pense que j'avais une envie, enfin c'est sûr, j'avais une très forte envie depuis cette écoute des disques, d'être musicien, ou enfin de faire de la musique, de faire du son, et j'ai mis beaucoup de temps à trouver ce chemin-là. Et avoir ces groupes, quand même, ça m'a donné la réalité que, bon, c'était pas là, quoi, que ça se passait, quoi, qu'il fallait que je trouve un autre endroit.
Et alors, il y a un événement fondateur, mais avant, peut-être dernière question là, sur les Beaux-Arts et le son. Est-ce qu'au sein des Beaux-Arts, à un moment, t'as été confronté au son, t'as pu exprimer quelque chose avec le son ou pas du tout?
Alors, pas très vite, mais progressivement introduit le son, alors qu'il n'y avait pas de matière son à étudier.
Non, ça n'existe pas à Beaux-Arts de Brest.
Ouais. Ouais, même encore aujourd'hui, ça reste très anecdotique.
Il n'y a même pas une formation de preneur de son ou de. Non.
Non. Mais j'ai trouvé une sorte de moyen de discuter avec les profs, parce que j'avais mis le son comme une sorte de matériau sculptural. C'est-à-dire que je travaillais de l'air qui vibre, puisqu'on est dans l'air, on est comme des poissons dans l'eau, mais on est dans l'air. Et moi, je modelais cette matière. Je pouvais faire des endroits où il y a du son, d'autres où il n'y en a pas. Donc je pouvais faire comme des colonnes dans une pièce avec des zones où il y a de l'air qui vibre et d'autres où il n'y en a pas. Quand on est dans la colonne, c'est comme si on avait un casque et à côté, on n'a presque pas de son.
Ça existe d'ailleurs des colonnes comme ça où on se place en dessous, on a le son en dessous. Ouais.
Oui. Ouais, j'en ai toute une caisse là.
À la bibliothèque dans laquelle je travaillais on m'a dit que c'était trop cher. Enfin bon.
Bah oui, ça c'est.
D'accord, et donc là, parce que le prof aura pu te dire oui et alors. Bon, il t'a pas dit oui et alors, il t'a dit fait peut-être.
Oui, c'est ça. Mais ça s'est étalé donc sur 2 ans, on va dire. Enfin, vraiment la dernière année, j'ai vraiment quasiment fait que du son. Fait du son et construit le dispositif qui permettait de diffuser ces sons et avec des paraboles. Donc il y a une, une technicité qui est apparue.
Mais là, tu étais un peu tout seul. Tu n'avais pas de prof pour t'aider. Comment tu as fait avec cette technicité?
Le prof de sculpture, il m'a aidé pour faire la résine.
Mais toute l'électronique qui va avec le son.
J'ai demandé à des copains qui en faisaient. J'ai récupéré des magnétos à bande. C'est l'époque où les gens se débarrassaient des magnétos à bande des années 70. Donc ça me permettait d'enregistrer des sons et de faire des boucles. Et donc une boucle de bande magnétique et avec plusieurs magnétos, on pouvait avoir plusieurs sons, chaque son étant diffusé dans un haut-parleur spécifique. Ouais, c'était un assez chouette dispositif, mais...
C'est la bricole, quand même. Ça commence à être sérieux, ouais.
Ah oui, c'est la bricole empirique, puisque je découvrais tout par moi-même.
En plus, ouais. T'aurais pu te ramasser, là, mais bon, ça t'y tenait, donc t'as fait ce qu'il faut pour aller au bout du projet. Le prof était satisfait.
Ouais, ah oui. Ouais, tout à fait. Je pense que tout le monde me soutenait, regardait ça d'un œil un peu, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais j'ai tenu une position tellement radicale, c'est-à-dire que c'était vraiment des pièces vides avec du son et une pièce noire.
Enfin, il y avait des installations, il y avait un peu de plastique, hein, il y avait un peu de.
Non.
De sculpture, enfin, des supports du. Non, même pas.
Rien.
Il n'y avait que le son.
Que le son. Une pièce noire dans laquelle on rentrait par un sas. En rideau, et on se retrouvait dans le noir complet avec que du son, mais qui nous entourait partout. Donc on était plongé dans le son, alors que quand on était dans l'espace en lumière naturelle, on pouvait passer d'un son à un autre. Le son était un objet à distance.
T'as fait une boîte noire, c'est du boulot ça aussi, parce qu'il faut les rideaux, faut le support.
Hein. Puis j'avais tout construit, puis comme on était finalement que deux à passer le diplôme à Brest, ils nous ont envoyé le passé à Quimper. Donc j'ai dû tout démonter.
C'est un camion là.
En fait c'était des choses qui s'adaptaient à l'architecture. C'est une pièce dont j'ai complètement occulté, et puis on rentrait dans la pièce et c'est comme ça.
C'est des rideaux, oui.
Oui, c'est un art de l'environnement, on va dire. Enfin, l'environnement au sens où mes sons prenaient tout l'espace de l'endroit.
D'accord.
Il y a une pièce à Quimper où j'ai mis mes projecteurs de son à l'étage sur les fenêtres en dessous. Ça tapait sur la façade en face et le son revenait dans les fenêtres où je passais le diplôme. Donc le son venait du dehors. Mais comme ça rebondissait sur la façade en face, on avait vraiment l'impression que c'était la façade qui émettait le son.
D'accord, et tu l'avais prévu ou c'est à force de tâtonnement, t'as compris des choses comme ça, ouais?
Tâtonnement, de manière empirique, ouais. Oui, je suis un passionné de l'empirisme, de la découverte, de la curiosité, du...
Et là, à ce moment-là, moi, ça m'avait... On a préparé l'émission, donc j'avais un peu raté ça. Là, tu es déjà dans ton métier d'une certaine manière, mais dans ton esprit, qu'est-ce que c'est pour toi cette réalisation? Est-ce que tu penses, parce que ça n'a pas l'air d'être ta disposition en ce moment-là, est-ce que tu penses métier, tu vas à l'ONICEP, tiens, on peut faire ça?
Oui, on nous fait croire aux Beaux-Arts et allez vous inscrire, essayez, cherchez dans les circuits classiques, mais en fait, il y a... On n'est pas du tout formé à ça. C'est ça qui est dur, mais c'est ça qui est passionnant, parce que c'est là je me rends compte.
Quel est le bilan à la fin quand ça marche? En plus, t'as été apprécié, le travail a été apprécié. Quel est le bilan pour toi, pour la suite?
D'avoir tenu. D'avoir tenu la radicalité de ma position, de mes envies. De ma curiosité. Et de l'avoir poussé, qu'il y ait des gens qui aient cru en moi, ça c'est important aussi. Après, j'aurais pu très bien aussi rester, faire que du dessin, de la peinture, enfin rester dans quelque chose de plus...
Plus habituel aux Beaux-Arts,
ouais. Ouais, et plus classique pour moi, dans le bon sens du terme, hein, mais là, je sais pas, j'étais comme ça, voilà.
Ok, bon, mais enfin, t'as pas fait un bilan, t'as dit, bon, maintenant, c'est ça que je vais faire, et basta.
Oui.
Ouais. Tu t'es dit quelque chose comme ça.
Ouais, parce que j'ai dû...
En pensant à un métier, c'est-à-dire un métier, c'est quelque chose qui rapporte de l'argent aussi. Hein.
Ah ouais, bon là, non, mais les installations sonores, alors déjà
ça
vivre...
Ça rapporte pas beaucoup, ouais.
Bon, ok,
t'es pas là-dedans, mais en fait, en tout cas, tu veux faire quelque chose, même si ça rapporte pas, c'est une question qui viendra plus tard.
Ouais.
À un moment, t'as un enfant aussi, il faudra dire quand il arrive. Moi, là, je sais pas s'il est là déjà, mais...
Oui, si,
Il est déjà là.
Oui, j'avais 22 ans, donc j'étais en troisième année des Beaux-Arts.
D'accord, un enfant, ouais, parce que là, faut, ça... Ça pose des contraintes quand même. Le temps et l'argent aussi un peu.
Mais c'est un sacré moteur. Parce que
c'est un moteur.
Il
y a des gens qui disent c'est un frein. Il y a des gens qui vont te dire ça m'a empêché d'être je sais pas quoi.
Oui.
D'être écrivain. Ou...
Oui, ça.
Toi, tu dis le contraire. Tu dis c'est un moteur, ça m'a poussé.
Ah oui. Ah oui, parce que tout d'un coup, on n'est pas seul, on est pris dans quelque chose qui prend un peu le pas, quoi, sur notre création, tout ça.
Surtout les artistes sont plutôt égoïstes, normalement, enfin, ils s'occupent d'eux. Mais là, l'enfant, c'est tout le contraire.
Ouais.
Ça décentre, quand même.
Oui, ça décentre, ouais. Ça a besoin de manger, de trucs comme ça.
Je m'en souviens.
C'est une bête. Alors, bon, ça lui a fait, c'est sûr, une enfance particulière. J'étais pas tout seul. On a été plusieurs. Oui, puis on était plusieurs à avoir des enfants dans ces années-là au Beaux-Arts.
Ah, c'est vrai, au Beaux-Arts, plusieurs.
Au Beaux-Arts, ouais.
Ah, dis donc.
Mais le couffin dans ma salle en troisième année, quoi, dans la salle. Il y a des fois où je l'ai amené, oui, parce qu'on pouvait pas voir.
Bah oui, tu peux pas le mettre ailleurs, ouais.
Et puis, ça, bon.
Ok. C'est parti des bagages. Ok. Et bon, alors, on va aller maintenant peut-être sur ce que tu m'as dit être quand même assez fondateur au sens métier. C'est-à-dire, à un moment, une amie à toi, te fait appel pour créer la bande son d'un spectacle de danse. Elle est chorégraphe d'un spectacle de danse contemporaine. Et il se trouve qu'elle est déjà un peu introduite, elle est professionnelle, elle déjà. Donc d'une part, il y a la question pourquoi elle fait appel à toi, et d'autre part, qu'est-ce qui se passe alors pour toi dans ce que tu apprends, dans la reconnaissance et dans les premiers contacts avec ceux qui un jour te paieront peut-être.
Alors, elle, la toute première, elle était, bon, c'était avec la fac. Elle était, ouais, bon, on va pas dire professionnelle, elle était quasiment. Enfin, si on met professionnel d'être payé, tout ça, il y avait, mais c'était déjà extrêmement structuré.
Mais elle allait dans des lieux professionnels.
Oui, tout à fait. Ouais. Et je saurais pas dire comment, pourquoi. Je crois que je faisais de la musique avec son beau-père, peut-être. Il y avait un truc comme ça et. Et puis c'est parti. Mais ce qui est hyper intéressant pour moi, c'est que je découvre un espace d'écoute et de disponibilité des oreilles pour le public, parce que la danse est sur le plateau et moi je fais déjà des sons qui tournent avec des haut-parleurs derrière le public. Je m'invente ça parce que je n'avais vu nulle part, on va dire. Et cette écoute et ce rapport au corps en mouvement, je connaissais vraiment rien à la danse, hein. Le rapport du corps en mouvement, comment le son, la musique peut l'aider, le faire avancer, créer un espace dans lequel il se déploie, comment il joue sur la sensibilité des gens qui regardent la danse, il y a tout un monde parallèle qui est passionnant. Que je découvre et qui me passionne. Et
tu rencontres d'autres problèmes techniques, j'imagine, que tu règles un à un.
Oui, très vite, je découvre des techniciens dans des salles qui sont des gens passionnants, passionnés et prêts à donner à un jeune qui a des idées, qui arrive avec une... Je pense que j'arrivais déjà avec une certaine qualité de son.
Donc il voyait, il reconnaissait ce que tu savais faire et il voyait aussi ton envie forte de fabriquer, d'inventer. Ouais.
Ouais. Et quand on a une capacité d'écoute, qu'on est capable de rester, entendre ce que raconte quelqu'un, c'est une grande qualité pour apprendre ça. Parce que les gens, il y a énormément de gens qui aiment être écoutés. Je veux dire, il faut pas prendre le mauvais côté du truc, mais
oui, c'est vrai. Quand tu écoutes vraiment quelqu'un et que tu es intéressé, le plus sauvage, enfin, le plus mal poli des gens va se mettre à te parler sérieusement parce que tu l'écoutes.
Ouais, tu l'écoutes, ouais. Et les gens du son sont souvent des gens plutôt quand même un peu en retrait, un peu discret. Ouais, ouais. C'est pas des exubérants, donc ils trouvent. Enfin, j'ai tissé, et j'ai eu vraiment des super relations avec des techniciens du quartz, par exemple, parce que c'est.
Ah, tu l'as fait au quartz, ouais.
Oui, enfin, je l'ai fait partout où j'allais, j'engrangeais du savoir-faire. Mais bon, ça a été beaucoup suivi avec des gens du quartz parce qu'il y avait un niveau de technique là-bas très très élevé, un niveau d'exigence de rendu, de rapport au public, de timing, de responsabilité par rapport à ce que l'artiste amène, ce que le public attend.
C'est énorme, bon là si on résume milieu professionnel, tu les rencontres, les ingénieurs du son des salles de spectacle, exigences de ta commanditaire aussi j'imagine, mm-hmm. Et veut des choses et ça marche, et découverte du public qui s'intéresse à ce que tu fais, ouais, c'est, ben je rigole, mais parce que tu es, comme tu dis, tu es radical, et enfin les radicaux nous emmerdent, enfin les gens radicaux sont pas faciles, surtout les créateurs, parce que et là ça marche, c'est extraordinaire, ouais. Et l'institution, de certaines manières, puisque c'est joué dans des lieux, reconnaît. Enfin l'institution là, pour l'instant, de manière un peu générale, reconnaît, ouais. Et il y a peut-être même un salaire.
Mmh. Oui, parce que donc c'est un fil que j'ai commencé à suivre et dans la danse contemporaine des années 90, il y avait de l'argent. C'était en plein développement, donc j'ai pu faire des musiques en étant payé.
C'était chaque langue à l'époque, peut-être, je sais plus.
Ouais.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ouais. Ouais. Et oui.
Ok, bon, là, il y a un énorme pas. Ça m'intéresse toujours parce que tu tiens à distance la notion de métier, mais là, tu te vois professionnel, c'est-à-dire. C'est de ça que tu vas gagner, avec ça que tu vas gagner ta vie, ou plutôt encore artiste qui fouille, qui cherche, qui trouve, mais
il y a les deux, enfin oui, les deux cohabitent parce que je continue à faire des installations sonores, mais en parallèle j'ai toujours des projets avec des spectacles. Donc, dans un cadre très précis, c'est pas moi qui m'occupe de monter tout le projet. On me dit, hop, viens, fais-moi une musique comme ci, comme ça. Je veux que ça raconte ça. Enfin, c'est vraiment des commandes quand même. Même si j'y ai une grande liberté.
C'est ça, ouais. Moi, ça m'intéresse là, de voir, parce que tu es radical. Donc, enfin, ton métier est radical. Tu l'as attaqué d'une façon radicale aussi. Et là, tu es dans la commande. On te demande quelque chose. Cette commande, tu peux la voir comme quelque chose qui va contre ta radicalité. Ou au contraire. Ou au contraire, c'est ce que tu as fait, je crois. Tu vois comme un système de contraintes qui va être créateur et qui va t'obliger à aller chercher des choses que tu trouverais pas sans ces contraintes. C'est plutôt ça, ouais.
Oui. Ah ouais. C'est absolument ça. Mais ça, la contrainte, je me la suis mise un peu, je sais pas trop. Pourquoi au début de ne travailler qu'avec des sons que j'enregistre moi-même?
Ouais, ça bloque un peu. Ouais.
Ah oui, c'est ça veut dire qu'on peut pas être se mettre à un clavier et dire de piano et dire bon alors boum, je fais ça, je sens ça, je mets ça, c'est généré par la machine. Non, ça commence par un rapport au monde où je vais enregistrer du son et puis je vais bricoler ça pour que essayer que ça devienne de la musique.
Mais pour la danse, tu en as fait de la musique, quand même.
Ah oui, oui.
Donc mais la première. Tu as mis du rythme, tu as mis de l'harmonique, tu as mis de la mélodie.
Alors, j'ai utilisé le fait d'avoir une pratique musicale, enfin instrumentale, on va dire, pour mettre dedans. Dans la première, il y a de la basse acoustique aussi, du piano, un peu que jouait un copain. Mais c'est principalement des sons d'eau, des gouttes. C'est ça la vraie trame et ça les gouttes j'y suis encore c'est ça qui est okay. Super quoi.
Organique ouais. ouais et alors peut-être dernier avant de conclure cette première émission parce qu'à un moment tu vas devenir intermittent du spectacle
Et c'est un statut, faut le répéter sans arrêt quand même. Sans ça, c'est très difficile de vivre de son art.
Ah oui.
Et qui a quelques contraintes. Je sais plus combien c'est, 43 cachets ou bref, 200, je sais plus combien d'heures.
C'est presque un cachet par semaine à l'année.
Les gens qui savent, ils comprennent bien. Hein, c'est très précaire et c'est pas facile. Et ça, tu l'as obtenu en suivant un artiste africain, c'est ça, un chorégraphe africain.
Ouais, ça. En fait, je suis retourné en Afrique avec du théâtre. Donc, mais là, j'ai bien 35 ans.
Vous avez toujours des enfants à s'occuper, ils sont pas tenus à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance.
Et par un espèce de fil suivi, enfin, je me retrouve à travailler avec Salia Sanou, enfin, qui veut faire un travail sur son village d'enfance, les Guéma, perdu dans la brousse du Burkina Faso. Et ça colle complètement avec ma démarche parce que on est parti là-bas, je sais plus, 2 semaines, enregistrer tous les sons du village et construire à partir de ça, et exclusivement ça, la musique du spectacle. Dans la dimension de sa démarche, il était vraiment prêt à ce que j'en fasse une musique, c'est-à-dire à les décaler et je fais pas un travail de documentaire dans le son, bien sûr, quoi. C'est une manière de faire de la création que j'ai.
Et on en reparlera dans la deuxième partie, entre différence entre documentaire et création.
J'ai fait la musique de son spectacle, et puis c'est un chorégraphe burkinabé, mais qui est installé en France, et qui était dans le circuit des scènes nationales, donc je me suis retrouvé à arpenter les scènes nationales en France, un peu en Allemagne aussi, donc ça c'est une super chance, parce que quand on fait une musique comme moi, enfin, qu'on a ma pratique sonore, on se retrouvait avec 500, 700 personnes en salle, c'est super, quoi. C'est quand même une reconnaissance aussi radicale qu'on puisse être. Avoir du public, c'est quand même une chose qui est le moteur aussi normal d'être artiste. C'est pour qu'il y ait des gens qui écoutent. Alors, l'établissement de l'intermittence là-dedans, ça a permis d'asseoir un statut. Enfin, avant, j'en avais des cachets, oui, un peu, j'étais proche, non, j'arrivais pas, il manquait. Puis c'était tout en papier, encore à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est quand même d'une certaine manière plus facile dans la gestion administrative de tout ça.
Ah, tu veux dire, oui, il y avait des papiers à fournir.
Avoir, etc. Bon, j'étais pas aussi rigoureux qu'aujourd'hui, c'est sûr. Je pense que, on acquiert ça au fur et à mesure, la rigueur, et puis on construit la nécessité, on se dit, bon ben là, il faut vraiment que je sois intraitable là-dessus, puisque c'est ma survie.
C'est ça, exactement. Donc, c'est nécessaire, il faut le faire bien, même si c'est à l'opposé de ce qui t'attirait dans la vie au départ.
Oui, c'est ça. Puisque c'est ça qui permet, entre les artistes et les techniciens, chez les intermittents du spectacle, en tout cas, moi, en tant qu'artiste, le fait d'être intermittent, c'est ça qui me permet de passer tout mon temps sur mes créations.
Important, parce que sinon, tu fabriques ici, t'es pas payé à la journée, rien ne se passe, mais un statut permet de lisser et d'aller d'étape en étape, de point d'étape en étape, et le statut intègre la création.
Être instrumentiste de haut niveau, si on joue que pendant les concerts, on n'est pas de haut niveau, quoi. C'est impossible, ça demande tellement, tellement d'investissement. Donc c'est une richesse infinie.
Tous les pays n'ont pas ce statut.
On est même les seuls, quoi.
Je crois qu'en Hollande, il y a un statut d'artiste.
D'accord.
Ouais. En Suisse, ils n'ont pas, en Allemagne non plus, bon. On va se conclure là-dessus pour cette première émission. Et donc, nous retrouverons Hugues Germain dans le prochain numéro de Un bon boulot.